Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, durant la première partie de nos émissions, nous allons continuer notre série destinée à répondre aux questions de nos auditeurs sur la place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Jean-Marc sera de retour parmi nous pour nous parler du fruit de l'Esprit.
Bonjour Jean-Marc. La dernière fois, nous avons abordé, brièvement, il est vrai, la question des dons de l'Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler du fruit de l'Esprit.
Oui, c'est exact, Yann. Et bonjour à tous. De nos jours, beaucoup de chrétiens sont fascinés par les dons de l'Esprit parce que parfois ils revêtent un caractère spectaculaire et sensationnel. Du coup, certains peuvent facilement négliger l'une des priorités de l'Esprit de Dieu qui est le désir de produire en nous du fruit.
L'apôtre Paul évoque ce fruit dans son épître adressée aux Galates.
Oui, et nous allons tout de suite écouter ce qu'il écrit.
Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autre chose de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite.
Nous avons déjà appris, lors d'une émission précédente, que l'Esprit de Dieu vise deux objectifs complémentaires. Tout d'abord, il désire enrayer le péché de nos vies, pour ensuite le remplacer par de bonnes qualités, dont une liste est donnée dans le texte que nous venons d'entendre.
Il serait bon que nous relisions cette liste lentement et que nous nous examinions afin de connaître dans quelle mesure ce fruit est présent dans nos vies.
Vous avez raison, Yann. Voici donc ces bonnes qualités qui sont le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.
Lorsque je médite sur ces qualités, j'ai le sentiment de voir la personne de Jésus-Christ.
Nous ne devrions pas nous en étonner. Jésus, le Fils de Dieu, est l'incarnation même du caractère de Dieu. Il est l'exemple parfait de chacune de ces qualités. L'Esprit de Dieu œuvre dans nos vies pour que nous ressemblions à Jésus. Ces fruits, ces qualités dont nous parlons, nous aident à comprendre concrètement ce que signifie ressembler à Jésus. Ce fruit représente ainsi un objectif vers lequel nous devons tendre, le but que nous devons atteindre.
Merci Jean-Marc, mais alors comment pouvons-nous favoriser cette œuvre de l'Esprit ? Comment pouvons-nous encourager l'apparition de ce fruit ?
Pensons aux arbres fruitiers. Que leur faut-il pour produire une bonne récolte ? Il leur faut surtout de l'eau, il leur faut du soleil, il leur faut une bonne terre avec les nutriments nécessaires. Il leur faut être protégés des insectes ou des maladies.
Il s'agit d'une illustration, mais comment la traduire sur le plan spirituel ?
Comment croître spirituellement au point que le fruit de l'Esprit se voit toujours davantage dans nos vies? En lisant la Bible, nous pouvons repérer plusieurs éléments qui favoriseront cette croissance. La lecture et la méditation de la Bible, la compréhension toujours plus approfondie de l'amour et de la grâce de Jésus-Christ, la communion étroite avec Dieu notre Père, une vie de prière, l'encouragement des sœurs et des frères en Christ, toutes ces choses sont essentielles et elles permettent à l'Esprit-Saint de poursuivre son œuvre en nous.
Et s'il faut protéger les arbres fruitiers des insectes nuisibles, cela veut-il dire que nous devons nous protéger des influences pouvant avoir un rôle négatif sur nous?
Oui, vous avez raison. Céder à la tentation ou s'adonner au péché ralentira ou pourra même détruire l'œuvre de l'Esprit. Si nous savons que certains endroits ou certaines personnes risquent de nous inciter à commettre des péchés, il sera bien de les éviter. Je sais que cela n'est pas toujours possible, mais nous devons réfléchir sur la manière de combattre et de surmonter les diverses tentations qui nous assaillent. Il en est de même de nos lectures, ou de ce que nous pouvons regarder à la télévision, comme de la musique que nous écoutons. Si les messages communiqués par ces outils nous poussent à pratiquer le mal, ne vaudrait-il pas mieux nous en abstenir? Le plus important, me semble-t-il, est de garder le Christ au centre de nos vies, de passer du temps à l'adorer, à le contempler, à méditer sur sa personne. Plus nous apprendrons à le connaître et à l'aimer, moins nous serons attirés par le mal et le péché, et plus nous lui ressemblerons. À ce sujet, et en guise de conclusion, j'aimerais citer un dernier texte biblique. Il s'agit de l'épître de Paul aux 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et nous tous qui contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Si nous regardons à Jésus, l'Esprit nous transformera à son image, il produira son fruit dans nos vies. Or, le fruit de l'Esprit révèle le caractère de Jésus. Ainsi, si nous nous tournons vers le Seigneur, nous deviendrons comme lui.
Nous remercions Jean-Marc pour ses enseignements clairs et instructifs.
Et nous passons tout de suite à notre série de méditations bibliques. Hélène va lire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 31 à 33. Ensuite, Robert nous fera part de ses réflexions sur ce texte.
Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous ? » « Avec quoi nous habillerons-nous ? » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous demander ce que cela signifie de nous préoccuper du règne de Dieu. Le texte que nous avons entendu fait partie d'un discours prononcé par Jésus, appelé le Sermon sur la montagne. Au cours de ce discours, Jésus donne aussi un enseignement sur la prière, et il propose une prière modèle dans laquelle il encourage ses disciples à prier ainsi. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre » comme au ciel.
Donc nous devons non seulement nous préoccuper du règne de Dieu, mais aussi en faire un sujet de prière. Mais qu'est-ce que concrètement le règne de Dieu?
Nous pouvons dire que Dieu est le grand roi souverain. Il règne sur l'univers entier. Toutefois, en tant qu'être humain, nous avons la fâcheuse tendance à nous rebeller contre son règne. Ainsi, lorsqu'une personne se préoccupe du règne de Dieu et prie pour qu'il advienne, elle exprime le désir de laisser l'Éternel diriger et gouverner sa vie. Elle prouve qu'il est plus important de chercher la volonté de Dieu que d'accomplir sa propre volonté. Celui qui se préoccupe du règne de Dieu est prêt à obéir aux lois de l'Éternel. Il désire se soumettre à la volonté de son Seigneur. Il est disposé à mettre en pratique la sagesse de son Père céleste et à recevoir ses conseils.
Lorsque nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, j'ai comme l'impression que nous pensons plutôt aux autres et que nous exprimons le désir que l'Éternel établisse son règne sur nos gouvernements ou sur nos ennemis, par exemple.
Ceci est vrai, et cette prière peut aller dans ce sens. Toutefois, avant de prier pour les autres, nous devons prier pour nous-mêmes. Nous devons entreprendre une démarche personnelle qui consiste à nous demander « Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? Quelle est la volonté de Dieu dans telle ou telle situation ? Est-ce que je laisse le Seigneur diriger ma vie ? Ou bien est-ce que j'affirme ma propre volonté ? Est-ce que j'écoute la parole et la sagesse de Dieu ? Ou bien est-ce que je privilégie mes propres désirs et mes propres desseins ? »
Ces questions nous interpellent profondément. Tout à l'heure, vous avez mentionné notre tendance à nous rebeller contre l'Éternel. Et je pense que même en tant que croyants, nous résistons trop souvent à l'autorité et la volonté de Dieu.
Vous avez raison, Yann. Cette tendance vient de notre nature pécheresse. Elle vient de notre égoïsme, de notre désir d'indépendance, d'autonomie. Elle vient aussi de nos mauvaises expériences. Dans ce monde, lorsque quelqu'un exerce son autorité, il peut le faire maladroitement, voire méchamment. La maltraitance, l'injustice et l'oppression sont si courantes et elles viennent renforcer notre désir si naturel de résister à toute autorité. Cependant, avec l'Éternel, la réalité est totalement différente.
Expliquez-nous en quoi ?
Rappelez-vous le texte que nous avons cité au début de cette discussion. Il parle de Dieu en tant que Père céleste en qui nous pouvons avoir une confiance entière. Ceci étant, nous pouvons nous soumettre au règne de Dieu en toute confiance. Soyez rassurés, Dieu n'exerce pas son autorité de façon tyrannique, en vue de nous écraser ou de nous exploiter. Non, loin de là. Dieu exerce son règne afin de reconstruire nos vies sur de bonnes bases. Il exerce son règne afin de nous donner un cadre de vie épanouissant. Il exerce son règne pour combattre le mal et encourager tout ce qui est bon. Lorsque nous sommes vraiment convaincus de ces vérités, nous nous soumettons plus facilement à la volonté du Dieu souverain.
Merci Robert de nous avoir ainsi éclairé sur la nature du règne de Dieu et sur ses implications dans notre vie. Nous reviendrons sur ce thème la prochaine fois.
En effet, nous espérons vous retrouver, chers amis auditeurs, pour la suite de nos deux séries. En attendant, nous vous remercions pour votre écoute et nous prions pour que le Seigneur ouvre vos cœurs sur les merveilles de sa grâce.
Sur ce, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.